Hauderster Florence obena ihre Geburtstag. Journalistin a Chris-Reporterin hat dazu einen anderen Bezug wie die meist von uns. Zumal nachdem sie nur Arbeitsreisen an Ruanda, Algerien, Afghanistan 2005 am Irak entfauert war und rechts 5 Minuten drauf freigelost gauf. Den Institut Pierre Werner hat Florence Aubena letzte Woche in der anderen für die Nuit des Idées am Moudam invitiert. Dann Kerstin Thalau hat die Möglichkeit, ein Interview mit der Florence Aubena zu machen.
Florence Aubena, dans le cours d'anthropologie, on nous disait dans le temps qu'une guerre serait le résultat d'un échange raté. Est-ce que, du coup, une Nuit des Idées comme celle du 31 janvier au Moudam est une bonne idée, justement, afin de s'exercer à s'échanger, à débattre publiquement?
Oui, je pense, et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'une guerre n'est que la défaite d'une discussion. Hein. C'est souvent ça, donc c'est vrai que moi je me suis retrouvée bizarrement dans beaucoup de conflits, et c'est vrai que curieusement, notre génération, hein, moi j'ai commencé à être journaliste au milieu des années 80, on était persuadés qu'on allait être journaliste de paix. Parce que le mur allait tomber, donc tout le monde sentait que ça commençait. On était en train de construire l'Europe. Et donc quand on nous disait journaliste de guerre, ça nous semblait un métier à la papa. C'est-à-dire on se disait mais la guerre c'est pas nous, c'est pas pour nous. Nous on en riait. Et curieusement, la guerre nous a rattrapés. Et donc c'est vrai que pour nous ça a été un... Pour cette génération-là, ça a été un échec cuisant. C'est-à-dire, on se demande toujours qu'est-ce qu'on n'a pas su faire alors qu'on avait justement tout ce... cette chute du mur, cette construction européenne. On a eu l'impression d'avoir... d'entrevoir une société apaisée et qu'en fait, ça ne s'est pas passé.
Vous êtes la fille d'un diplomate de la communauté européenne et d'une journaliste et enseignante, plus précisément journaliste culturelle, critique de cinéma et de théâtre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers des mises en scène atrocement, voire terriblement mauvaises? Donc les scènes de guerre, de conflits, des grands procès en France.
Mon premier métier dans la presse était un métier technique. C'était un métier où, vous savez, vous titrez les papiers des autres, vous les mettez à la longueur qu'il faut, vous les réécrivez, vous vérifiez les choses, etc. Et ça me convenait tout à fait bien, moi. Au départ, je m'étais dit, ça, voilà, c'est formidable. Et à vrai dire, il y a... Beaucoup de journalistes, c'est souvent, on le présente comme un métier de vocation, ce qui n'était pas du tout mon cas. C'est-à-dire que moi, j'avais pas tellement d'idées de ce que je voulais faire. J'ai fait des études de lettres que j'adorais. Et après ces études de lettres, je me suis dit, oh là là, je vais continuer encore un petit peu, lire des livres, raconter des choses, etc. Et mes parents m'ont dit, les deux que vous venez de nommer, m'ont dit, il faut peut-être que tu trouves un travail, donc tu vas être prof si tu fais des études de lettres. Et alors là, les cheveux me sont dressés sur la tête, être prof, c'était pas du tout ce qui me convenait. Et donc, je me suis inscrite à 15 concours, tout ce qu'on pouvait faire avec une maîtrise de lettres, ce qui était le diplôme que j'avais. Et en fait, j'ai réussi le premier, qui était l'école de journalisme, et j'y suis rentrée. Et donc, ça a été vraiment peut-être un non-choix, d'une certaine façon. Et quand il s'agit de trouver un travail, moi, ce que je voulais, c'était trouver un travail à Paris. Je venais d'arriver à Paris, j'y étais pas depuis longtemps. Et donc, je disais, voilà, oh là là, dans la technique, c'est facile, on reste à Paris, il y a beaucoup de travail. En général, dans la technique, c'est de la presse, il y a beaucoup d'emplois, disons. Et donc, là, j'aurai un travail qui va me convenir, je serai à Paris, je vais faire la fête avec mes copains. Donc, c'était vraiment, c'était pas du tout une optique de reportage ou de choses comme ça. Et en fait, il s'est trouvé qu'une de mes collègues est tombée enceinte et on m'a dit, est-ce que tu veux la remplacer? J'étais à Libération à l'époque, un quotidien français. Je n'étais pas très emballée, je me suis dit, oh, pauvre, pas plus que ça. Et en fait, le premier reportage que j'ai fait, j'ose pas vous dire j'ai vu la Vierge, mais vraiment, ça a été une révolution dans ma vie. Et donc, ça m'a plu au-delà de tout, et je n'ai plus jamais arrêté depuis ce jour-là. Mais c'est vraiment une vocation tardive. Et c'est vrai que je dis ça pour tous les jeunes gens à qui on demande, à partir de 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? On peut choisir très tard. Et avoir une vocation très forte.
Qu'est-ce qui vous a plu? Si vous dites « ça m'a plu énormément », est-ce qu'on peut décrire ça?
Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez tout à coup la latitude de poser toutes les questions d'une curiosité sans limite. tout à coup, vous demandez aux gens, alors vous avez fait, qu'est-ce que vous faites ça, pourquoi, toutes les questions qui vous passent par la tête, vous pouvez les poser. Et alors, une des grandes surprises au début où j'étais journaliste, c'est que les gens vous répondent. Alors, au début, j'ai commencé, je faisais beaucoup de faits divers, par exemple. Et donc, vous vous retrouvez à sonner à une porte, vous demandez à quelqu'un, voilà, est-ce que votre mari a bien tué la voisine, par exemple. Et donc, vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous a jamais vu, à qui vous demandez ça, et bizarrement, elle vous répond. Vous dites, elle va me claquer la porte au nez, c'est pas possible. Eh bien, non. Et ce qui m'a beaucoup plu et ému, c'est de voir à quel point les gens sont parfois seuls. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne avec qui partager les moments les plus extraordinaires, au sens large, hors de l'ordinaire, hein, de leur vie. C'est-à-dire que en parler à un avocat, bah, c'est un avocat, à un policier, il est policier, à la famille, c'est parfois gênant. Et le journaliste est celui qui va recueillir cette parole-là. Et c'est extrêmement précieux et touchant à chaque fois. Et alors parfois, les gens sont presque naïfs. Et j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît, dites pas ça à n'importe qui. La manière dont ils se confient est tellement ingénue que ça fait peur presque.
Il doit y avoir des gens au Luxembourg qui n'ont jamais lu un de vos articles pour La Libération, après pour Le Nouvel Observateur, actuellement pour Le Monde. Mais le nom Florence Aubenas les fait certainement tous penser à quelque chose, en fait à une vidéo, le clip qui fut tourné lors de votre prise en otage en Irak et qui a fait le tour du monde par après. On y découvre l'image d'une autre femme, une Florence Aubenas affaiblie, sollicitant l'aide. Est-ce que vous vous y êtes reconnue ?
Moi, je ne l'ai jamais vue.
Vous ne l'avez jamais vue ?
Non. Donc, oui, c'est vrai que ce clip a fait le tour du monde. Et alors, je l'ai vue, j'allais dire, par raccro. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été libérée, énormément de gens m'ont envoyé des témoignages de ça. Et alors, notamment des dessins, des peintures, des choses ou des photos de ce clip. Et donc, j'en ai vu des morceaux, mais par le regard des gens. Et ça me convient tout à fait. C'est-à-dire que j'ai vu non pas le clip, mais la manière dont eux l'ont vu. Et c'est vrai que c'est très émouvant. L'Europe est un continent, est une zone géographique très précieuse pour ça. C'est que les otages n'y sont pas vus comme des perdants. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quelqu'un qui est pris en otage, eh bien, c'est bien la preuve qu'en face de nous, il y a des terroristes très très méchants. Et d'ailleurs, on va le laisser se faire exécuter parce qu'on ne négocie pas. Et on en revient à la négociation. Et donc, il y a vraiment cette dimension-là. J'étais très amie avec la mère d'un otage américain. On lui demandait une forte rançon. Et elle faisait le tour de la population en disant « aidez-moi à payer ». Et elle a été condamnée par la justice pour financement du terrorisme. Donc, il y a vraiment des lectures très différentes d'une même situation. Moi, j'ai toujours tendance à penser que même avec son pire ennemi, parler est toujours mieux. Quand bien même ça n'est pas évident, quand bien même on se dit « oui, mais vous savez, effectivement, vous financez, etc. » Mais c'est finalement peu de choses par rapport à dire « oui, pour nous, la vie est importante. Oui, pour nous, pour notre pays, pour notre démocratie, la vie est importante. » Et je pense que c'est une sacrée leçon. Et c'est aussi une manière de s'afficher. C'est-à-dire que dire « je suis pareil qu'un terroriste », ça ne me semble pas la bonne solution.
Entre 2004 et 2007, il y a eu en Irak plus de 120 prises d'otages parmi les journalistes et d'autres personnalités. Plusieurs milliers d'Irakiens ont été enlevés. Juste avant votre disparition, Florence Aubenas, il y a eu la libération de deux de vos compatriotes du Figaro.
J'étais à Bagdad d'ailleurs pour leur libération.
Ah, est-ce que ça n'a rien déclenché en vous ? Est-ce que l'éventualité d'une prise en otage est une question qu'il faut laisser à la maison, qu'il ne faut pas se poser ?
Si, bien sûr que c'est une question qui se pose. Et quand vous ne vous la poseriez pas, toute votre famille vous la pose. C'est-à-dire que quand vous partez à Bagdad et qu'il y a deux Français en otage, on vous dit « n'y va pas ». Alors, bien sûr, vous avez, vous, ce réflexe de dire « enfin, je prends le volant, c'est pas moi qui vais avoir un accident, ça n'arrive qu'aux autres ». Et c'est vrai que quand vous êtes, vous, détenu après, la très grande difficulté, c'est le remords que vous avez. Vous dites, voilà, il me l'avait dit, j'y suis allé quand même, ils doivent être en train de se morfondre. C'est compliqué. Et c'est vrai que pendant cette détention, je m'étais forcée à ne jamais penser ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mon journal, en me disant, ça va m'affaiblir. Et donc, je m'étais inventé un monde imaginaire et dans lequel je vivais. Et mon idée était, c'est une situation terrible parce que vous êtes entièrement dans la main de quelqu'un. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes, pour manger, pour vous laver, vous dépendez de quelqu'un. Et donc, rien n'est évident. Donc, et vous attendez. Donc, nous, on était dans une cave, hein, enchaînée. La porte était fermée, elle s'ouvrait, c'était une porte assez impressionnante parce que vous savez, c'est ces portes, ces grilles en fer, et donc ça s'ouvrait avec un bruit grinçant comme ça. Et nos ravisseurs, je dis nos ravisseurs parce qu'on était une quinzaine, très, très, une très petite pièce, très serrée, enfin et essentiellement, vous l'avez rappelé, des Irakiens, donc c'était la seule européenne. Dans cette toute petite pièce, on est là et on attend que les gens arrivent pour vous donner le bout de pain que vous allez avoir à midi, pour vous amener aux toilettes, etc. Et vous n'êtes qu'attente. Vous passez votre temps à attendre. Et je m'étais dit, je vais devenir folle. Et d'ailleurs, cette situation est terrible parce que les gens deviennent fous. Donc, ils se mettent à hurler, beaucoup prient ou pleurent. Enfin, c'est une situation vraiment très, très compliquée. Et je m'étais dit, il faut que quand ils ouvrent cette porte, ils me dérangent. Je suis en train de faire quelque chose de tellement, qui m'intéresse tellement, que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent encore m'emmerder en ouvrant cette porte? Et donc, je vivais dans ce monde imaginaire en me disant, voilà. Et ça a marché. Parfois, ouais, il me dérangeait. Vraiment, j'avais inventé un monde, un univers.
Mais qu'est-ce qui arrive le jour où ce monde s'arrête?
Ça, il n'y a aucun problème. Pour moi, en tout cas, il n'y a eu aucun problème. J'étais tellement contente que ce soit fini. Vraiment, tout le monde m'a posé cette question, m'a dit « Mais comment ça se fait que tu étais tellement contente en sortant de l'avion ?» Je me suis dit « Mais c'était impossible de ne pas l'être pour moi. » Et c'est vrai que ça me frappe aujourd'hui encore, quand je vois certaines libérations d'otages ou prisonniers, où les gens ont toujours l'air tristes. Et vraiment, moi, on ne choisit pas la tête qu'on a à ce moment-là. Mais moi, ça ne m'a pas traversé l'esprit, quoi. J'aurais dansé à l'aéroport, moi. C'était extraordinaire.
À propos, Florence Aubenas, on entend souvent qu'après un enlèvement, les otages libérés redeviennent victimes, cette fois-ci celle de la presse. Vous avez témoigné, après quoi on vous a laissé relativement tranquille. Apparemment, les victimes d'un enlèvement bénéficient en France d'un certain respect, d'une protection. Il y a eu beaucoup plus la discussion par rapport à une éventuelle rançon qui aurait été payée par l'État français, ce qui fut critiqué sévèrement par les États-Unis et le Royaume-Uni.
Exactement. Voilà. On en revient à la discussion que nous avions, hein, c'est-à-dire que négocier ou pas. Et donc, je vous dis, moi, je suis vraiment partisan de négocier pour ces raisons-là, parce que je pense que la négociation est la seule façon de sortir d'une situation de crise. Non, en France, la situation des otages n'est pas du tout questionnée. C'est-à-dire que des personnes qui ont été enlevées en Afghanistan, le gouvernement a commencé par dire qu'ils ont été imprudents. Et très vite, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il est entendu qu'on ne peut pas, quand on est journaliste de terrain, y compris en zone violente, dire « écoutez, maintenant, ça devient trop dangereux ». On va ne plus y aller et on reviendra pour interroger les survivants. Donc c'est très compliqué de faire ça et c'est vrai que ce métier implique de prendre des risques. Donc il y a des journalistes qui sont blessés, des journalistes qui sont tués, des journalistes qui sont enlevés. Et je pense que quand on travaille en zone de violence, il faut l'accepter. Alors bien sûr, il faut mesurer les risques, etc. Mais... moi, je ne me décrirai jamais comme une victime, mais comme j'ai vécu un accident professionnel. C'est-à-dire, c'est un maçon qui tombe du toit, c'est un accident professionnel. Un routier qui a un accident, c'est un accident professionnel. Moi, c'est un accident professionnel. Je ne suis pas une victime victime du terrorisme à cette façon-là. Je prends mes risques, je vais en Irak. Et je vous dirais une chose tout à fait différente. Si j'étais allée à une salle de spectacle et que des gens étaient venus mitrailler tous les spectateurs. C'est-à-dire que on a le droit d'aller écouter un concert sans se faire mitrailler. En revanche, quand on va en Irak et qu'on est journaliste, il faut savoir mesurer aussi ce qu'on fait.
Risque, assurance risque, sentir une assurance, la protection de quelqu'un. Votre supérieur à la Libération à l'époque estimait qu'il fallait des journalistes en Irak. Sinon, on n'aurait que les commentaires de Rumsfeld et compagnie.
Exactement.
Après votre remise en liberté, vous êtes reparti dans les zones de conflit comme la Syrie afin d'en témoigner. Mais est-ce que vous êtes retourné en Irak, Florence Aubenas ?
Non, j'aimerais beaucoup y retourner. Pour moi, symboliquement, c'est très important. C'est-à-dire que, évidemment, pour moi, l'Irak n'est pas, ne se limite pas à des gens qui prennent des journalistes en otage. C'est-à-dire que moi, j'aimais l'Irak avant. Et d'ailleurs, j'y suis allée pour cette raison. Je l'aime après. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais alors, je pense qu'il y a une gêne dans les rédactions dans lesquelles je travaille à m'envoyer là-bas. Alors, régulièrement, je demande. Je dis, voilà, oh, il y a une chose intéressante en Irak, etc. Et je les vois, tout le monde regarde ses chaussures en se disant, non, celle-là, elle va nous la porter la poisse. Et donc, voilà. Alors, donc, je vais finir peut-être par me résoudre à y aller moi-même. Un jour ou l'autre, par principe, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, quand il s'est agi de repartir, c'était assez compliqué. Et je vous dis, les rédactions dans lesquelles je travaillais, les journaux, se disaient, est-ce qu'on la renvoie ? Est-ce que... Voilà, ils étaient eux-mêmes embarrassés, ils n'osaient pas trop poser la question, etc. Et donc, j'ai un peu pris le taureau par les cornes en disant, voilà, je voudrais aller en Afghanistan. La guerre en Afghanistan repartait. Et donc, j'aimerais y retourner. C'était en 2007, donc j'y suis allée. Et c'est vrai que je leur avais dit, écoutez, si une peur panique me prend en descendant de l'avion, vous me rapatriez et vous ne vous moquez pas de moi, quoi. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et je dois dire, j'en suis bien contente parce que je ne sais pas trop quel métier je ferais si je ne faisais pas celui-là. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. You.
road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer. Sweet release. I am calling you. Can't you hear me?
Javetta Steele Calling You, extrait du film Bagdad Café. Florence Aubenas, l'Institut Pierre Werner vous avait invité pour la Nuit des idées ainsi qu'un débat le lendemain. Un autre de leurs invités fut l'auteur irakien Najem Vali. Est-ce que vous avez pu prendre un Bagdad Café avec lui? C'est-à-dire, avez-vous eu l'occasion de vous échanger? Et que signifie une telle rencontre pour vous?
Moi, j'ai été passionnée. Alors, j'ai demandé, alors, comment c'est maintenant l'Irak? J'y étais allée plusieurs fois, trois fois. Et donc, ça m'a émue, comme on parle d'un endroit dont, d'une certaine façon, je m'en sens un peu, le terme va vous paraître étrange, un peu banni. C'est-à-dire que j'aimerais y retourner, je n'y arrive pas, voilà. Donc, je suis avide dès que je rencontre quelqu'un qui me parle de l'Irak aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup de questions. Alors, c'est parce que moi, je l'ai connu à cette époque-là. Il y avait encore toutes les séquelles, toutes les suites de la chute de Saddam Hussein. Donc, c'était très, très impressionnant parce que donc tout l'ensemble du palais avait été pillé. Enfin, donc, et donc, il y avait les gens avaient pris les choses des autres. Et je me rappelle, dans Bagdad, par exemple, il avait une écurie de course, de chevaux de course extraordinaire. Et donc, toutes les charrettes, toutes pourries des gens qui circulent dans Bagdad, étaient attelées de chevaux magnifiques, de pur sang extraordinaire. Et donc, il y avait tout un mélange très étrange à cette époque de pillage, de restes de ce régime dont les gens avait du mal à se détacher. C'est toujours très impressionnant, quand tombe une dictature, de voir combien elle reste très présente pendant assez longtemps, en fait.
On vous a envoyé en Irak, car ce fut important de témoigner, entre guillemets, contre Rumsfeld. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, voire trop de conflits sans témoins? Y aurait-il des guerres plus populaires que d'autres?
Oui, mais c'est vrai que de façon très injuste, certains conflits provoquent moins d'intérêt, je ne sais pas comment le dire autrement, dans l'opinion que d'autres. Je prendrais par exemple aujourd'hui le Yémen, qui est un conflit terrible, vraiment épouvantable, et dont on parle assez peu par rapport à ce que c'est. En tout cas, ça n'est pas quelque chose qui imprègne l'opinion, comme a pu être l'Afghanistan à une époque, l'Irak ou la Syrie. Et ça, c'est toujours... Alors, j'ai tendance un peu à accuser la presse. C'est-à-dire, je pense que c'est à nous de transmettre et de savoir rendre ce conflit lisible. C'est-à-dire que le cœur du métier des journalistes, c'est très exactement celui-là. C'est de raconter un conflit. Parfois, les gens ne savent même pas situer le Yémen sur une carte, ne savent pas où sont les choses. Et tout à coup, ils vont dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est intéressant ?» Et ça, c'est notre métier. C'est-à-dire, c'est notre métier. On a tous eu un prof pendant notre vie scolaire qui, tout à coup, vous a éclairé ou la philosophie ou l'histoire en disant... Voilà, il a rendu une matière vivante. Et nous, notre travail de journaliste, c'est ça. C'est rendre aussi un pays vivant, un conflit vivant, une situation vivante. Et parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on n'y arrive pas. Et ça, c'est terrible. Je me souviens, par exemple, à Libération, où je travaillais, un journaliste était passionné de courses de trotteurs. Vous voyez, c'est pas... En plus, Libération était un journal très à gauche, donc c'était considéré comme pas du tout intéressant. Et moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ben, je lisais ses articles, je me ruais dessus. Parce qu'il avait cette manière de vous rendre passionnant quelque chose pour lequel vous n'aviez aucune affinité. Et je pense que dans certains conflits, les Rohingyas, par exemple, on devrait... Ne pas du tout lâcher cette histoire-là. C'est une histoire épouvantable. Et voilà, il y en a beaucoup à travers le monde et que tout à coup on lâche pour des raisons diverses. Et je pense qu'on a tort.
En 2009, vous avez pris un congé sans solde pour témoigner d'une autre chose qui vous semblait importante, la situation du monde de la précarité en temps de crise. Vous êtes partie à Caen, vous vous êtes inscrite à l'Agence de l'emploi avec votre vrai nom, mais sans mentionner votre carrière, introduisant uniquement votre diplôme du bac en langue. Vous avez décroché des boulots temporaires, comme femme de ménage sur les ferries, où il fallait par exemple faire les chambres en 3 minutes. Quand vous parliez de l'expérience ultérieurement, vous avez dit que la prise en otage vous a aidé dans ce quotidien. Comment ça, Florence Aubenas ?
Moi, au début, je n'ai pas du tout vu de relation entre les deux. Et en fait, un de mes collègues, que j'aime beaucoup, m'a dit « Ah oui, bien sûr, tu as fait ça à cause de ta prise d'otage. » Alors j'ai dit « Je ne vois pas du tout le rapport. » Je commençais par me « Mais enfin, c'est idiot de dire ça, etc. » Et il m'a dit « Oui, je pense que, en effet, pour la majorité des gens qui te croisent, en dessous de ton nom, il y a écrit « Ex-otage ». Et je pense qu'inconsciemment, tu as voulu changer de... Voilà, il se trouvait que j'ai changé d'identité pour faire ça. Hein. Je suis journaliste et je me suis fait passer pour une demandeuse d'emploi. Donc, c'était réellement un changement d'identité. Il a dit, je pense que ça te pesait. Je continue à dire, mais non, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je pense qu'il a un peu raison. Et certainement, j'ai voulu me faire oublier à tous les sens du terme. Alors, ça, c'est assez intéressant. À la fois sur ça rend modeste dans la presse. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce travail, donc j'avais gardé mon nom, hein, j'ai pas fait de faux papiers, mais je disais je suis une femme de 50 ans, je cherche du travail et j'essaye d'en trouver, j'ai juste le bac, bon tout va. Pendant que je cherchais ça, toutes les filles avec lesquelles je travaillais, je dis les filles parce qu'il y a principalement des femmes qui travaillent dans ces métiers-là. Connaissait mon nom, savait qui j'étais, voyait ma tête tous les matins. J'ai pas changé, j'étais habillée. J'ai pas acheté d'habits particuliers pour faire ce métier, etc. Et il y a eu, par exemple, dans le journal local, des choses sur les otages où il y avait ma photo, mon nom, etc. Personne n'a jamais fait le rapport entre les deux. Donc, et c'est vrai, ça c'est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un tout à fait dans une autre, dans un autre contexte, vous ne faites absolument pas le lien. Et c'était à tel point qu'à un moment, je me retrouve en face de, vous savez, j'étais dans une agence pour l'emploi, et la femme me dit voilà, oh, on a bien ri avec mes collègues parce que quand j'ai vu votre nom, on s'est dit tiens, on reçoit une journaliste aujourd'hui. Alors je m'y attendais pas, et en plus j'étais très angoissée à l'idée de me faire démasquer. Et donc je dis et je suis complètement déstabilisée et la seule chose que je trouve à faire c'est dire hein d'un air abruti. Et là elle me dit Madame Aubenas, ça n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer votre dossier, on oublie, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ça m'a vraiment fait rire. Et donc et après j'ai rencontré cette personne, après on est devenues copines d'ailleurs. Mais c'était très impressionnant. Enfin, c'est vraiment... Il y a un fossé entre les deux situations, quoi.
Est-ce que vous avez confronté également les femmes que vous avez rencontrées et dont on découvre les portraits dans votre livre ? Est-ce que vous leur avez révélé qui vous êtes ou pourquoi vous avez fait ça ?
Alors après, oui. Et alors, j'ai été moi-même très naïve parce que je m'étais dit, bon, voilà, ces femmes, je vais raconter leurs très mauvaises conditions de travail. Et donc, elles vont être très contentes que je parle de ça. Alors, pas du tout. Pas du tout. Ça a été vraiment, au contraire, un choc. Donc, au début, je leur dis, voilà, en fait, donc j'arrive, j'étais allée les voir à l'endroit où on embauchait le soir, et donc qui est le long d'un quai. Et donc, il y a la mer à côté. J'ai vraiment cru qu'on allait me mettre par-dessus, qu'on allait me jeter à l'eau. Et donc, je leur dis, voilà, en fait, je suis journaliste. Alors, au début, tout le monde me regarde en disant, oui, c'est ça, et puis moi, je suis la reine d'Angleterre. Alors, je dis, ben non, je vous assure, c'est vrai. Alors, elle me dit, la fille me dit, bon, non, mais écoute, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, j'insistais, j'ai dit, si, je vous assure. Et depuis quand les journalistes s'intéressent aux gens comme nous ? Alors, deuxième claque. Et donc, la conversation se poursuit. Ensuite, troisième choc, elles se mettent à me vouvoyer. Alors qu'on s'était tutoyés, on avait nettoyé les toilettes ensemble pendant 6 mois. Donc ça y est. Et puis, en fait, elles m'ont dit, tu montres qu'on accepte des conditions de travail terribles et sans se défendre. Et en fait, tu nous fais passer pour des imbéciles. Et je n'avais pas du tout vu cette dimension. Et je la comprends, tout à fait. Alors j'étais mortifiée, hein. Et donc elles me disent voilà nous tu nous voilà on, effectivement c'est des conditions invraisemblables donc on vient pour travailler 2 heures hein, c'est ça la difficulté de ces métiers là c'est que vous venez vous travaillez 2 heures et parfois le temps de trajet pour faire ces 2 heures est supérieur à 2 heures et donc vous passez plus de temps dans votre voiture qu'à nettoyer le prix de l'essence est cher et donc vous y perdez aussi beaucoup. Enfin, c'est quelque chose, des métiers vraiment très compliqués. Et donc elles disent voilà, et donc nous on fait ça et on a l'air d'imbéciles. Et je ne l'avais pas du tout, j'avais pas du tout pensé à ça. Et donc moi qui pensais être fêtée en triomphatrice, ça n'a pas du tout été le cas. Alors après, ça s'est un peu arrangé en fait, parce que le livre a eu un certain succès. Et en fait, ce succès leur a permis d'avoir d'elle une image positive. Et je dois dire heureusement, parce que voilà, j'en étais malade. Hein.
Votre livre s'est vendu à 200 000 exemplaires en quelques mois. Mais malgré l'intérêt littéraire, l'intérêt politique ne s'est jamais fait sentir, ou plutôt une action politique concrète. Vous étiez donc obligé de vous contenter d'avoir donné la parole à des gens qui sont la plupart du temps invisibles dans notre société. Est-ce ce qui a déclenché votre mission actuelle, Florence Aubenas, l'observation et l'écoute des Gilets jaunes ?
C'est toujours un grand choc, c'est-à-dire que quand vous êtes journaliste, vous avez toujours l'impression que votre travail va tout à coup révéler, le ciel va s'ouvrir, il va y avoir un éclair, on va dire « mon Dieu, c'est vrai, ça ne peut plus durer ». Et votre livre va produire ce coup de tonnerre-là. Et en fait, pour reprendre l'image de ce livre, à Caen, donc la ville de Caen où se passe ce livre, une ville en Normandie, il y a 12 entreprises de nettoyage, hein, donc des entreprises intérimaires. Hein. Et donc moi, j'ai travaillé pour 3 d'entre elles. Et en fait, tout ce que ça a changé, c'est que pour les 3 entreprises, même pas les 12, les 3 entreprises où j'ai travaillé, ils ont payé pendant un an les heures supplémentaires, ce qu'ils ne faisaient pas. Après, ça s'est arrêté. Et les 9 autres se sont dit « Ouf, on a été assez malins pour ne pas l'embaucher ». Donc, ça a eu un impact vraiment très, 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 très limité. Alors, effectivement, les pouvoirs publics viennent vous voir puis vous disent oh, « c'est formidable », etc. Et là, vous leur dites, bon, écoutez, là, on est dans le ministère du Travail, par exemple. Ici, qui est-ce qui fait le ménage ? Est-ce que c'est les salariés ou est-ce que c'est des personnes comme ça qui travaillent à la tâche, des emplois précaires ? Et c'est toujours des emplois précaires. Donc, vous dites, écoutez, les pouvoirs publics devraient montrer l'exemple. Vous ne le faites pas, donc c'est pas la peine qu'on discute pendant des heures. Et ça, c'est vrai que c'est toujours une déception. Alors, je pense que petit à petit, on crée des... Voilà, pas après pas, on y arrive... Donc souvent, j'ai l'habitude de dire que la presse est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais pas suffisante.
Florence Aubenas, toutes ces impressions, ces images, ces récits, ces idées, sont-ils vos compagnons dans la vie ? Est-ce qu'ils vous protègent ou au contraire vous déstabilisent par leur imprévisibilité? Ne survivent qu'une poignée de ces impressions. Et est-ce que vous espérez qu'un jour, ils vont s'agencer comme les pièces d'un puzzle pour donner, en quelque sorte, une formule du monde?
Alors, moi, j'ai tendance à penser exactement ça. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus pessimiste, encore que je c'est pas mon tempérament, mais il y a une dizaine d'années, au début des années 2000. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens prennent beaucoup plus en main leur choix. C'est-à-dire qu'ils se laissent beaucoup moins porter par « tout le monde fait ci, tout le monde fait ça ». Et là, je pense que les gens ont une vraie réflexion sur, y compris des gens dont on ne s'y attend pas forcément, hein, qui vont faire attention à l'écologie, qui vont essayer de choisir une chose et pas une autre, de se laisser moins facilement porter par « c'est comme ça et pas autrement ». Et il y a eu un sentiment, un très fort sentiment d'impuissance, je pense, pendant des années, où on se disait tout est décidé au-dessus de nos têtes, c'est à Washington, à Bruxelles pour l'Europe, nous on n'y peut rien, voilà. Et je pense qu'on revient beaucoup de ça, c'est que les gens, en tout cas dans ce qui est de la vie quotidienne, ils le prennent en main. Et je pense que c'est comme ça que les choses changent. Les choses changent quand chacun dans sa propre vie fait bouger les lignes. Et je crois que c'est aujourd'hui, c'est en train de se passer. Alors, ça met du temps, mais c'est la seule façon. C'est-à-dire qu'une loi sur l'écologie, on le voit tous les jours, change peu de choses. C'est-à-dire que c'est que les gens doivent en être convaincus. Et maintenant, c'est comme ça que ça se passe dans l'écologie, aussi par rapport à la condition des femmes, par rapport à tout un tas d'enjeux actuels. Alors que des lois existaient et n'étaient pas appliquées. Hein. Je pense, par exemple, en France, travail égal, salaire égal, ça n'est absolument pas appliqué, aujourd'hui encore. Hein. Et partout en Europe, hein, il y a ce mouvement formidable où on arrête de travailler à la mi-novembre parce que tout le reste, on n'est pas payé pour. Donc je pense que... Et aujourd'hui, ça n'est pas une impulsion d'État, une impulsion des pouvoirs publics, c'est personnel. Et là, je pense que on franchit un cap aujourd'hui très, très intéressant, très important autour de ça.
Donc merci beaucoup. On va essayer de s'arrêter tous à la mi-novembre et danser comme vous l'aviez souhaité autrefois. Merci Florence Aubenas.
Merci à vous.
Da Florence Aubenas, hier Publikation über die Undercover-Karriere als Putzfrau, als 2010 bei den Edition de l'Olivier rauskommen. Auf YouTube fand ihr auch ein ganz reiches Gespräch mit der Florence Aubenas zu ihren Erfahrungen. Zu Caen. Und das war ein Gespräch eben von der Florence Aubenas, das Kerstin Thalau letzte Woche geführt hat.